Moi, je débarque des États-Unis en 1965. Là-bas, j'ai une expérience, puisque j'ai travaillé au New York Times, et j'ai une expérience de la radio américaine, parce que j'ai été l'assistant de Murray the K, de Maurice Kaufman, sur WANS, où j'ai coupé de la bande, pendant des kilomètres de bande, j'ai fait des montages, j'étais porté les cafés, enfin toutes les conneries, les
À
sandwichs.
l'époque du cinquième Beatle?
Avant, c'est-à-dire moi je suis là-bas, je suis avec lui en 63-64, les
Les
Beatles
Beatles
arrivent
arrivent.
au Shea Stadium, la première fois ils passent au Shea Stadium, ils sont à l'hôtel Delmonico à New York, et Murray the K m'emmène, et là il fait un coup de pub énorme, un coup de marketing énorme, il s'autoproclame cinquième Beatles,
Ouais, ce qui est
et là
fou.
ça part dans tous les sens d'une façon extraordinaire, ce qui me permet en même temps avec le New York Times de suivre un peu la tournée Beatles, puisque je vais à Dallas et je vais à Chicago. J'ai 19 ans, hein. J'ai 18 ans, 19 ans. Donc pour moi, c'est. Tu sais, on me dit toujours, mais qu'est-ce que tu foutais aux États-Unis? Ça, c'est une autre histoire. Mais je dis toujours, j'ai voulu aller voir le rock'n'roll de plus près.
Ah oui.
J'ai fait le golfe Drouot, j'ai été élevé en Irlande, j'ai connu, moi, les premières stations pirates avant tout le monde. On allait à Liverpool en week-end, on prenait un ferry de Belfast pour aller à Liverpool. On dormait dans des YMCA, parce qu'on n'avait pas une thune, et on allait écouter les groupes à la caverne, etc. Donc là, j'ai 15 ans, j'ai 16 ans. Donc à 17, il faut que j'aille voir le rock'n'roll de plus près et je pars aux States. Et ça, c'est une autre histoire. Donc, j'ai une petite expérience de la radio. Je sais ce que c'est. J'en ai jamais fait, évidemment. J'ai été assistant. Et je débarque en 65 à Paris. Et là, c'est pareil. Ça peut paraître inventé ou quoi que ce soit, mais c'est une vraie histoire. Parce que j'ai des témoins quand même pour le dire, pour le prouver. Je suis dans le métro et il y a un numéro spécial de l'Express qui sort, qui s'appelle La guerre des radios. Et en couverture, il y a Europe 1, France Inter, Radio Luxembourg,
Qui était
RTL
dans l'un
n'existe
d'eux, ouais.
pas, et il y a La guerre des radios, il y a un article de fond, et il y a Gérard Klein, Hubert et Roscoe.
Non, il n'est pas là, Roscoe.
Il arrive, en novembre 65, il
Ouais,
arrive.
donc ils vont faire le switch à RTL, alors.
Donc, oui, après, ça c'est.
T'as raison, il était encore. Les jingles, c'était Luxembourg,
Ben
c'était pas
oui,
RTL.
dans son beau
C'était Radio
studio sur
Luxembourg.
Radio
Radio Luxembourg.
Luxembourg.
T'as
Eh oui,
raison.
il est beau, il est grand, c'est moi qui écrivais tout ça, on en reviendra. Le titre Minimax, c'est moi qui l'ai trouvé, minimum de blabla, maximum de musique. Bref, je suis là, je lis La guerre des radios, je suis dans le métro et ça ne s'invente pas. Je lis donc l'article de fond et il y a une phrase en gras, parce qu'il y a une interview de Jean Prouveau, qui à l'époque le patron de Paris Match, de Figaro, de Radio Luxembourg, c'est un mec énorme. Et on l'a interviewé de la même façon qu'on a interviewé les gens de France Inter, qu'on a interviewé Siegel, Lucien Maurice, etc. Et lui, il dit, je vais redynamiser Radio Luxembourg, je vais lui donner un aspect jeune. D'ailleurs, je viens d'engager un mec qui s'appelle Roscoe, un Américain fou qu'on a trouvé sur un bateau pirate, etc. Et moi, j'aime les idées, j'aime ce qui bouge. Et si vous avez des idées, vous pouvez me réveiller même la nuit. Oh, pff, attends. Non, mais je te jure que c'est
J'entends la
vrai.
suite, j'attends la
Je
suite.
suis, et ça ne s'invente pas, à la station Bonne Nouvelle.
Oui.
Hein, j'allais à l'opéra, Bonne Nouvelle. Je sors. À l'époque, il n'y a pas de portable, il y a des taxiphones avec des jetons. Je suis dans la station de métro, je prends un jeton au guichet. Je regarde dans le Paris Match, le machin ou l'Express, et je fais le numéro de Paris Match rue Pierre-Charon. Et le plus benoîtement, le plus candidement possible, quand la standardiste me fait Paris Match, bonjour, blabla, je fais Jean Prouveau, s'il vous plaît. On dit ne quittez pas, évidemment. Et on me passe à l'étage où je tourne forcément sur une secrétaire
Assistante.
assistante que j'ai rencontrée après, qui était une vieille dame qui était avec Prouveau depuis des années. Et benoîtement, je lui dis, elle me dit de la part de qui? Et je lui dis, Sam Bernet. Elle me dit, monsieur, il est très occupé, t'as rendez-vous, laissez-moi votre nom, votre adresse. Bref, je vais chercher un autre jeton. Je recommence, je refais, je retombe sur la même dame qui me repasse la même secrétaire à laquelle je dis, je viens de vous appeler, je pense qu'on a été coupé. Est-ce que je pourrais parler à Jean Prouveau? Elle me dit non, monsieur, on n'a pas été coupé, je vous ai bien dit qu'il était très occupé, etc. Parfait, très bien. Je reprends un troisième jeton, je rappelle, même circuit, je retombe sur cette dame, et là elle me dit de la part de qui? J'ai dit son fils. Je ne savais pas que si Jean Prouveau avait un fils. Elle me dit ne quittez pas. Et j'ai Jean Prouveau, allez, on est des hommes de radio, on sait ce qu'est le temps, 1 minute 30. Bonjour, Jacques m'appelle-t-il, c'est le nom de son oui. fils. J'ai dit non, non, je m'excuse du stratagème très rapidement. J'ai dit, j'ai lu le journal, j'ai vu ce que vous aviez dit, je rentre des États-Unis, j'ai des idées, je veux travailler.
T'as fait ton pitch en 1:30.
Il me dit, vous vous êtes gonflé, ça me plaît.
Il avait raison.
Passez rue Pierre Charon, à la fin de la journée, il y aura une enveloppe à votre nom. J'ai dit, est-ce que je peux vous rencontrer? Il dit, c'est pas nécessaire. Je raccroche, je suis fou de joie, évidemment. Je reprends mon métro, j'attends, tu vois, en tournant en rond, qu'est-ce qui va se passer, etc. J'arrive rue Pierre Charon, je vais à la réception. Effectivement, il y a deux enveloppes. Il y en a une à mon nom, il y en a une au nom de Jean Farran, qui vient d'être nommé président directeur général de Radio Luxembourg. Je ne sais pas qui est Jean Farran. Donc, je prends l'enveloppe et j'ouvre la mienne. Il y a un mot, manuscrit de Jean Prouvot. Présentez-vous 22 rue Bayard avec l'enveloppe ci-jointe, vous serez reçu par Jean Farran. Je descends à la rue François 1er, c'est à 5 minutes de Radio Luxembourg. Je vais au 22 rue Bayard, je dis je voudrais voir Jean Farran. Je monte le petit mot, la fille fait clic-clic-clac, on me fait monter. Je suis dans l'antichambre un quart d'heure et Raymond Castan sort de son bureau. En disant, je suis le numéro 2 de la station, je suis Raymond Castan, Jean est très occupé, il est en conf de rédaction. Je vais vous recevoir. Je lui dis, mais j'ai une enveloppe pour Jean Farron, c'est pas grave, je vais l'ouvrir. Il ouvre, il lit, et il me regarde, et il me fait, je suis obligé de vous engager. Et je lui dis, mais. Il me dit, je suis obligé. Alors, j'ai jamais su ce que Prouvot avait écrit. Mais. Castan me dit, voilà, en fait, on a un bonhomme qui est depuis 2 mois dans la station, c'est un Américain, on ne comprend pas du tout ce qu'il dit, il est ingérable, il s'est fait construire un studio, on ne comprend rien, il travaille tout seul, il met des jungles, et, texto, hein, il met des jungles, il est tout seul devant son micro, il fait tout. Puisque visiblement vous avez une expérience américaine, je vais vous le présenter, parce que vous êtes probablement le seul au monde qui peut s'entendre avec lui. Et... puisque c'était en fin de journée, Roscoe était à l'antenne, il me dit on va descendre le voir finir l'émission. Il terminait à 18h. Et je rentre dans le bocal, derrière la vitre, puis je regarde, je vois un fou debout, torse nu, en train de jeter des disques partout, de hurler dans le micro. Et Castan, tu vois, avec son air débonnaire de mec du sud-ouest, me fait vous voyez, ça c'est le phénomène. et il me dit. Vous parlez anglais très bien. Toi, pour être bien sûr que va y avoir toi qui se fasse pas jeter. Et je dis, Roscoe termine, sort, ça va Raymond, ouais, oh, Raymond, bien, blabla. Et il me dit, et Raymond lui dit, je te présente Sam Bernett, on va le prendre, mais il faut que tu fasses connaissance avec lui. Donc voilà, si tu as 10 minutes pour l'interviewer, pour le voir, pour parler avec lui, ça serait bien. Et donc Roscoe, oui, Raymond s'en va, il me dit, venez me voir quand ce sera fini. Bon, très bien. Il nous laisse. Après toute ma vie, il y avait des caisses de disques partout, on ne pouvait pas s'asseoir. Roscoe me met 2-3 coups de pied, il pousse un carton, il s'assoit sur un carton, il y en avait un en face, il me dit, sit down. Il me dit, qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu es là? Et pareil, je raconte mon histoire rapidement, sauf qu'à lui, je lui dis que depuis que je suis môme, j'écoute Radio Luxembourg anglais, donc je connais vraiment tout ça, que j'arrive des États-Unis, j'ai travaillé avec Murray DeKay, que, il me fait, c'est pas vrai, c'est mon idole, Murray DeKay, machin, blabla. Et je lui dis, voilà, j'ai pas de thunes, j'ai besoin de bosser, puis je vais faire de la radio, quoi. J'ai totalement tombé dans la marmite aux États-Unis, même avant, c'est quand j'écoutais Radio Luxembourg anglais. Toi, j'écoutais les mecs, je dis, c'est ça que je veux faire, quoi, c'est génial. Donc, je lui explique tout ça. Il me dit, on va dîner ensemble. Ah, j'ai dit, oui, mais il faut que je remonte voir Raymond Castan. C'est pas la peine. Il dit, il y avait Caroline Wilson à l'époque,
qui travaillait avec lui.
Qui a épousé ensuite Cavada, etc., qui était sa secrétaire assistante. Il dit, Caroline, appelle Raymond, tu dis, je dîne avec Sam, c'est OK. Et je suis engagé. Et on dîne, on va au Grill Marbeuf. On se fait des côtes de bœuf comme ça, il fait tomber du pinard, et il m'explique, et puis je lui explique, et puis dans l'euphorie, et puis voilà. Et il me dit, tu viens demain, mais viens vers 10h, moi j'arrive jamais au studio avant 10-11h, viens à 10h, et puis tu vas faire comme un assistant, tu vas t'asseoir, tu vas me regarder travailler, je vais rien te demander, Et puis, bon, bah, c'est reparti. C'est-à-dire, je vais chercher des cafés chez Savy en face, je vais chercher des sandwichs. Puis je commence, il commence à me faire confiance dès le premier jour, à la fin de la journée. Tu vois, il voit que j'ai une culture musicale quand même. Donc, ça se passe bien. Et le deuxième jour, donc il est 2h du matin, je l'assiste, on est tous les deux dans le studio. Et il me dit, est-ce que tu sais monter, faire du montage? Je dis, oui, je sais. Il me dit, on va voir. Et là, il me sort 5 boîtes d'AFKFA, tu sais, les boîtes carrées, là. Il me les pose, il me donne du studio, un collant, il me met à côté, dans la pièce d'à côté.
Il
me dit, démerde-toi, je veux que tout ça soit une seule bande dans une heure. Je dis, mais c'est quoi? C'est des interviews, c'est des émissions. Tu fais à ta façon, mais il faut que ça soit... Tout ça doit être réduit en 60 minutes. Et je me retrouve devant le téléphone Ken, et puis je me mets le casque, et puis j'y vais. Et puis, à un moment donné, il passe à la tête. Il me dit, c'est fait. C'était presque 1h30 après. Je lui dis, ouais, c'est fini. C'est pratiquement fait. Mais enfin, moi, comme je ne connaissais pas les sujets et tout, j'ai taillé un peu dans l'arme. Enfin, si tu veux savoir comment je monte, c'est-à-dire si c'est bien fait, si c'est bien coupé, bien collé, visiblement, tu seras satisfait. Maintenant, c'est à toi de voir. Il écoute. Il écoute. Il prend les bandes. Le lendemain, il me dit, montage formidable. T'as bien compris, il faut aller vite, etc. Bon, parfait. Et puis là, bah, je travaille avec lui. Puis je deviens vraiment l'assistant, quoi. Assistant bien technique, j'enregistre des jingles, je lui prépare le studio. Là, il faisait sa programmation, je lui prépare ses disques. On fait la programmation ensemble.
Il te demandait des conseils.
Parce que...
Il connaissait pas le marché, quand même.
À un moment donné, on était obligé de passer de 40... Au moins, lui, il avait demandé à passer 60% d'anglo-saxons.
Et 40% de français.
Et les français, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas Johnny, ils ne connaissaient pas Claude François. Donc, c'est moi qui faisais la programmation avec les nouveautés qui arrivaient. Bon, moi, j'étais copain avec des mecs que j'avais rencontrés, etc. Donc, tu vois, par exemple, Riva et Thomas, c'était mes potes. Je les avais trouvés dans des bistrots à Saint-Germain parce que j'allais chez Félix, place de la Contrescarpe, etc. Donc, ils venaient avec un nouveau Delpech, avec un nouveau Dassin, avec des trucs. Donc, je le conseillais. Donc, on faisait la programmation ensemble. Puis après, je suis vraiment devenu son assistant. On vivait ensemble 24 heures sur 24, pratiquement. On rentrait chez lui à 6 heures du matin parce qu'il travaillait. C'était un bosseur, il ne sortait pas. Hein. Il n'allait pas dans les boîtes. Il travaillait la nuit, il enregistrait des émissions pour Radio One en Angleterre. Il faisait des trucs pour les soldats américains qui étaient, tu sais,
American Forces Network.
Donc, on enregistrait tout ça. C'était vendu sur les bases en Grèce, en Espagne, partout. Donc, on enregistrait comme des bêtes toute la nuit. On rentrait, je dormais chez lui. On se relevait le matin, c'est moi qui préparais le petit-déj. On retournait au studio vers 11h30. On mettait l'émission en place qui commençait à 16h30. On allait manger un morceau chez Savy. On retournait au studio vers 15h. On peaufinait le truc, puis voilà, puis on continuait, toi.
Juste un truc.
Tout ça est en 65-66, hein, charnière, parce que j'arrive. Moi, je rentre à RTL en novembre 65. Donc, ça continue. Bon, Radio Luxembourg devient RTL avec une opération rond rouge qui va sortir Elf, la nouvelle station qui remplace Antares, etc.
Énorme.
C'est énorme. On fait une opération rond rouge. Venez chercher vos ronds rouges. Donc on fait l'opération rond rouge, ça devient RTL. On se modernise évidemment, puis on est en frontal avec vous sur Europe. C'est-à-dire que l'idée de RTL, c'est
Salut copain.
Et c'est Monty qui présente Salut à ce moment-là.